Intertexte.
Cassandre Ostouk.
Un podcast animé par Arthur Segar.
Bah Cassandre, bienvenue dans ce podcast. Je suis trop content de le faire avec toi. Et bah on va parler ensemble de textes, du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, du texte qui parle le mieux d'amour pour toi, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre et d'une carte blanche. Mais avant ça, comme tu le sais, il y a ce petit rituel de début d'émission, puisque j'ai inscrit des phrases sur ces cartes. Voilà. Et donc si tu veux en choisir une...
Ça, c'est surprise, tu renouvelles à chaque fois.
Je renouvelle à chaque fois les, okay. Les phrases.
Ouais. Ouf. Ah bah attends, le premier mot tout de suite. Ouais. Là, je peux partir en monologue. Hein.
Vas-y.
La perfection. C'est parce que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. C'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse.
La perfection, c'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. C'est de Julia Ducournau.
Julia Ducournau, discours de réception de la Palme d'Or, Cannes 2021. Ok. Qui est Julia Ducournau ?
Alors, c'est une réalisatrice, du coup, qui a réalisé notamment Titane, pour, enfin, un film pour lequel elle a eu la Palme d'Or cette année-là, en 2021. Et du coup, dans son discours de réception, elle a dit la perfection, c'est pas... Enfin, elle a dit d'autres choses très intéressantes, mais elle a parlé notamment de la perfection. Et enfin, en parlant notamment de son film, qui était peut-être un peu imparfait par certains aspects, elle disait, enfin, là, j'ai conscience que mon film, il n'est pas parfait, mais la perfection, c'est pas que c'est une chimère, c'est que c'est une impasse. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi ?
Est-ce que tu t'adaptes à tes invités pour trouver les questions ou pas ? Enfin, pour.
C'est-à-dire ?
Bah parce que c'est vraiment le plus gros challenge de ma vie, moi.
Et mais ça, c'est l'intelligence des cartes, hein.
Ouais, c'est fou, hein, le hasard. Bah, clairement, ça me cause. C'est une impasse.
Ouais.
Je crois que. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à sortir des choses, à faire des chansons, à les assumer. Parce que je visais cette idée. Mais pendant longtemps, hein, j'y croyais.
à
une forme de perfection. Ouais. Et je crois que ça vient de ma mère et que ça l'a bouffé aussi, elle, cette façon de fonctionner. Mmh. Et ça rend fou. Hein. Et surtout, à l'heure actuelle, là, tu vois, avant de faire le podcast, tu me disais que tu allais pouvoir monter, recouper. En fait, ça prend un temps fou.
Moi aussi, c'est mon problème. Hein, là, en fait.
Merci. Ouais. Ah, on est tous confrontés à ça. Mais tu vois, moi, rien que de pouvoir faire autant de voix que je veux dans ce studio-là, chez moi, ça fait que je perds un temps fou, quoi. Je peux arriver à des V50, versions 50 de voix, voilà. Donc, et elle, c'était par rapport à son film, alors ?
Ouais, et justement, ce qui était assez fort... Alors que tu peux te dire que la Palme d'Or, c'est quand même un prix de ouf, et que souvent, les films qui ont la Palme d'Or, ils sont considérés comme un peu parfaits, tu vois. Et être d'avoir ce prix-là, et de quand même assumer que quelque part, son film, bah, il n'était pas complètement parfait. Parce que déjà, peut-être que ça n'existe pas, et ensuite, en effet, peut-être que c'est une façon un peu toxique d'envisager la création, je sais pas. Enfin, toi, t'arrives du coup à...
Moi, je l'envisage quand même. Moi, c'est quand même un but en soi. Hein.
Ouais. C'est quand même un moteur, quoi.
Ouais. Et j'arrive à atteindre une forme finale avant de sortir quelque chose qui me satisfait, en gros guillemets. Parfois, je suis quand même déçue et je serre un peu les dents avant de diffuser ce que je fais. Mais enfin, moi, à partir du moment où j'ai pris conscience que c'était un de mes plus gros enjeux dans la vie, ça m'a permis de lâcher prise sur plein de choses. Enfin, c'est tout récent, hein, mais je sens que ça m'apaise de plus en plus et que c'est un vrai frein au bonheur, en fait.
Mmh. Mais t'as quand même encore ça. Tu te dis quand même encore, j'aimerais bien faire une chanson et qu'il soit parfaite.
Non, parfaite, c'est impossible, mais c'est quoi ?
Après, c'est bien d'avoir une exigence aussi, tu vois. Mais faut juste pas, peut-être... Enfin, faut peut-être trouver l'équilibre entre exigence
l'équilibre.
et s'en foutre, quoi. Mais tu peux avoir... une exigence envers toi, envers ce que tu fais, sans croire absolument à la perfection, au point que ça te bouffe, quoi.
Ouais, après, je pense que ça dépend de ta démarche, tu vois. J'avais rencontré un artiste qui s'appelle Lewis Hoffman, et j'avais vu une interview de lui, et je lui en avais parlé, parce que ça m'avait fait du bien de l'entendre dire ça. Il expliquait qu'à une certaine époque, il avait plein de potes qui faisaient de la musique, mais que ça fonctionnait pas forcément parce qu'il sortait pas assez de choses, pas assez de contenu. Et lui, dès qu'il avait fini quelque chose, même si c'était pas du tout abouti, il sortait, il était très très productif. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'il a avancé, qu'il s'est construit, qu'il s'est... Et je pense que ça me correspondrait pas. T'as vraiment des fonceurs, enfin des sprinteurs et des marathoniens, quoi. Et moi, vraiment, c'est plus sur le long terme, je crois.
Ça me fait penser, association d'idées, mais j'avais écouté un petit podcast sur Francis Cabrel il n'y a pas très longtemps. Et le moment où il a fait La Dame de Haute-Savoie, et en fait, c'est parce qu'il y avait des deadlines de la part de sa maison de disques. Et en plus, je crois que c'était des deadlines... je crois que c'était pas mal. Je crois que c'était genre 4 ou 5 ans pour faire un album. Mais bref, il était un peu en mode me donner pas de deadline. Et du coup, il a fait cette chanson, La Dame de Haute-Savoie, pour vraiment dire, bah, en fait, face au rythme un peu qu'on nous impose, et genre l'accélération du monde, et notamment les trucs de pression que t'as dans un métier où tu dois absolument produire, dans un métier où tu marches ou tu crèves, dit-il, bah, il dit, bah, je vais juste me casser en Haute-Savoie, dans les chalets, et avec mon chien, et voilà, ouais. La slow life, tu vois. Ouais. C'était déjà une chanson sur la slow life.
Cabrel souhaite exercer son métier comme un artisan. Et l'idée de devoir écrire un troisième album en seulement 4 ans l'oppresse. Il ressent le besoin de fuir un temps les exigences de sa maison de disques. Loin du tumulte, il trouve refuge en Haute-Savoie. Face au Mont Blanc, Francis revient à ses premières inspirations musicales, le rock.
Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves. Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez...
T'as envie parfois d'aller en Haute-Savoie dans un chalet pour vivre une slow life?
Ah ouais, complètement. Mmh. Je pense que j'ai besoin des deux. Mais là, je me laisse un peu noyer dans l'effervescence de Paris en me trouvant des excuses de rendez-vous. Il y a toujours quelque chose qui me raccroche à cette ville, mais je sais bien que pour mon équilibre, pour mon bien-être, ouais, moi, l'image d'un chalet, ça me réconforte. Mmh. Et j'en aurais besoin, là.
Alors, c'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau?
Eh bien, c'est un texte écrit par Agnès Varda.
Okay.
Pour la bande originale de son film, Cléo de 5 à 7, que je n'ai pas vu. Mais j'ai découvert cette chanson tout récemment, une chanson de Michel Legrand.
Mmh. Donc elle a écrit les paroles et c'est Michel Legrand qui a fait la musique, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est... Tu ne connais pas?
Si, je connais.
Ça se voit à tes yeux. Je voulais juste que tu me dises oui, je vois de quoi tu parles.
Il y a un pétillement dans les yeux.
Je vois. Mais en fait, elle sonne comme un gros classique.
Ouais.
Et moi, je l'ai découverte là, il y a quelques jours. Et ouais. C'est incroyable. Enfin, j'avais l'impression de découvrir une chanson d'Edith Piaf. Tu vois, je me disais, mais ça existait tout ce temps-là.
Belle en pure perte. Nu au cœur de l'hiver, je suis un corps avide, sans toi.
Elle est fabuleuse, cette chanson, ça me donne envie de voir le film.
Ouais. Bah, un très beau film, hein, que je te conseille aussi.
C'est vrai?
Ouais.
Donc voilà, c'est une métaphore tout le long de la chanson qui compare... le manque de l'être aimé à une maison vide, une île déserte, une... Elle est très dramatique, hein. Très,
ouais,
très typée, chanson des années 60, Jacques Brel, compagnie ou tout. Mais moi, ça me parle à fond, ces chansons où il y a un peu d'exagération, un peu de d'envolée lyrique. Et il y a une phrase dedans qui fait belle en pure perte. Et je la trouve extraordinaire. Ouais. Je sais pas si c'est la bonne interprétation, mais j'ai personne qui peut recevoir cet amour, quoi, en gros, et du coup, je suis belle à perte, quoi. Ça me travaille beaucoup, cette idée de je me sens jeune, et en fait, c'est du gâchis, parce que la vieillesse nous rattrape.
C'est vrai qu'il y a tout un truc, je crois, vers la fin de la chanson, où c'est vraiment sur la vieillesse et la mort. Non, ça se finit pas comme ça. En mode, finalement, je meurs seul. Enfin, y a pas un... je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film.
Bah, en tout cas, les premières phrases qui sont sublimes, c'est « Toutes portes ouvertes en plein courant d'air, je suis une maison vide, sans toi, sans toi. » Comme une île déserte, enfin, tu la connais
Pas par cœur, mais...
que recouvre la mer, bon, c'est magnifique. Très triste.
C'est vrai que c'est bizarre qu'elle... Enfin, c'est marrant qu'elle soit pas... plus connu quoi.
Ouais.
C'est vrai que Michel Legrand, tous les trucs avec Jacques Demy, les Demoiselles de Rochefort et tout ça, c'est ultra connu. Mais c'est vrai que cette chanson-là, même moi, j'avais oublié qu'elle existait, alors qu'elle est super belle, ouais.
Ouais, elle a ce truc des chansons qui sonnent comme une évidence, quoi.
Ouais.
Et qui font que ça fait des tubes. Et bah, quand je l'ai découverte, je me suis dit... Je me suis demandé si je la connaissais pas déjà, en fait. Parce qu'il fait des grands standards, quoi, et des chansons un peu intemporelles. Non, c'est cette phrase « Belle en pure perte », ça te touche, toi ?
Ouais. Ouais, et puis je pense que c'est aussi lié avec l'histoire du film, où bah, du coup, c'est une chanteuse, je crois que c'est un peu une star, et genre...
Ne spoil pas trop, hein.
Enfin, ça, c'est vraiment que le début du film.
Ok.
Mais genre, ouais, enfin, c'est ça, c'est une chanteuse un peu connue, qui est, ouais, super belle, et du coup, là, elle va voir ses amis, Michel Legrand et compagnie, qui lui montrent la nouvelle chanson qu'elle va chanter, quoi. Et du coup, ouais, elle la chante, et tu vois qu'en la chantant, enfin, elle l'interprète tellement, de façon tellement intense, que tu te doutes que je crois que c'est un peu le moment où tu vois que derrière cette meuf hyper, enfin, qui a du succès, qui est super belle et tout ça, il y a une faille, quoi. Il y a un truc où il y a un vide en elle, quoi.
Elle s'adresse à quelqu'un dans la chanson ?
Non, en tout cas dans la scène, c'est vraiment, on lui présente la chanson, et elle dit « Ah tiens, c'est la nouvelle chanson, bah, on va la chanter et tout ça », et elle la chante, mais ouais, tu sens que ça clairement, ça exprime un truc aussi, elle, de sa vie, et ensuite le film, Cléo de 5 à 7, le principe, c'est quasiment en temps réel, tu suis la vie de Cléo de 5h à 7h, quoi.
Okay.
Ouais, donc elle se balade ensuite dans Paris et tout ça, et ouais, tu vois qu'il y a peut-être un vide dans sa vie qui va peut-être pas être comblé, je ne te le dirai pas, mais... Voilà.
Ok, mais c'est une vedette déjà.
Ouais.
Ok.
C'est vrai que c'est une bonne chanson de. Un peu de star, quoi. Enfin, je trouve, un peu de diva aussi, il y a un peu de ça.
Oui, où t'as l'impression que pour exprimer des choses et avoir quelque chose à raconter, il faut une forme de souffrance. Et amoureuse. Non, mais c'est fou comme c'est.
Ouais.
Enfin, j'écris rarement quand ça va, quoi.
Ok.
Tu vois, moi, j'ai l'impression d'avoir trop d'amour à donner qui déborde. Et en ce moment, j'ai pas de destinataire.
Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est...
Et t'as l'impression que c'est en pure perte, quoi.
Complètement.
Ouais.
Et du coup, il y a cette impression de gâchis. Et ce truc de... Putain, le temps passe et ça sert à rien, en fait, cet amour. Hyper, hyper jovial, tout ça.
Non, mais c'est bien de parler de ça. Et du coup, dans ce contexte-là, l'art, c'est un peu un exutoire pour toi ? Ça permet de...
Ah, complètement, ouais. J'en parlais il n'y a pas longtemps à une amie du fait que les chagrins d'amour ou être blessé en amour, c'était vite un problème qui fatiguait l'entourage. Dans le sens où, quand t'as quelqu'un qui est malheureux en amour, t'as envie de le réveiller, mais il n'y a pas tant de solutions que ça, quoi. C'est un peu... C'est dramatique, mais tu... Au bout d'un moment, quelqu'un qui est obsédé par une autre personne, par exemple, bah, t'es vite lassé, quoi, parce que tu vis pas dans son monde à lui. Et moi, je l'ai vécu. Et je sais que je fatigue mon entourage avec ça. Et le fait de pouvoir en faire quelque chose via la musique, c'est une chance incroyable.
Mmh.
À terme, tu vois aussi, quand tu regardes en arrière, tu dis, bon, au moins, il y aura eu ça. Il n'y aura pas eu que des cheveux blancs. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'as une grande souffrance ? Te connaissant, tu dois être du genre à en faire à la regarder, cette souffrance.
Bah ouais, exactement.
Bah oui.
Oui, bah oui, bah c'est ça. Après, moi, j'écris pas des chansons, mais j'écris quoi, ouais, bien sûr, pour
des poèmes.
Ne serait-ce que pour sortir ça, parfois des poèmes, parfois juste pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bah, je vais écrire un petit truc pour me dire, enfin, pour un peu poser ça à plat et me dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. Et en effet, un peu pouvoir circonscrire l'événement par des phrases, bah, ça le rend plus, je pense, saisissable. Et tu peux peut-être en faire plus quelque chose comme ça, quoi.
Sur le papier, je pense que ça te décharge de quelque chose. Et ça, c'est comme une séance de psy, je pense que ça te permet de l'identifier.
Et comment tu te sens, du coup, quand tu réécoutes ou quand tu rechantes une chanson sur une ancienne souffrance qui te fait plus souffrir ? Comment ça se passe?
Je réalise que je fonctionne quand même par cycle, parce que quand il y a des chansons qui me rendaient malheureuse un temps vis-à-vis de telle personne ou vis-à-vis de telle souffrance, j'arrive très vite à transposer et à me dire, oh, c'est un peu le même genre d'émotion qui revient quand même.
Ça redevient l'actualité assez vite.
On recycle.
C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour?
Bah, en fait, Arthur, j'aurais pu ne choisir que des textes qui parlent d'amour pour répondre à tes questions. C'était ça un peu l'écueil, tu vois. Mais...
Parce que tu es obsessed par l'amour.
Un peu. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, ouais. Mmh. Et c'est un fil conducteur dans ce que j'écris et dans ce que... Un bon terreau pour l'inspi. Pour répondre à cette question, j'ai pensé à des textes de Barbara. Ma plus belle histoire d'amour, bah Barbara, ouais. Mais en fait, c'était trop cornélien, quoi. Du coup, j'ai aussi pensé à une chanteuse qui s'appelle Linda Lemay. Je sais pas si tu connais, c'est une Québécoise. Mmh. Ça date un peu. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle fait actuellement, mais moi, je l'écoutais dans la voiture de ma mère. Et qui parlait beaucoup de l'amour maternel, notamment. Mmh. Une chanson qui s'appelle Donnez-lui la passion, où elle s'adresse à sa fille et... Elle lui souhaite d'être passionnée par quelque chose, quoi. Et que si elle disparaît, sa mère, au moins, elle aura un truc auquel se raccrocher. C'est des textes très simples. Mmh. Un peu à la Michel Berger, et qui me parle beaucoup, parce que c'est... T'as l'impression qu'elle elle interpelle la personne directement, quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'emphase du tout. Ça, ouais. J'adore. Mais en fait, je te parle de ça, mais c'est pas le texte que j'ai choisi, parce que je me suis dit, je vais lui sortir que des chansons, quoi. Et mais du
on
coup,
peut, on peut parler que chansons.
Mais c'est bien de varier un peu aussi. Et du coup, c'est un livre que j'ai lu cet été de Jack London, Martin Eden, qui m'a beaucoup touchée parce que, en gros, l'histoire, c'est un marin qui vient vraiment des bas-fonds de la société. C'est un livre assez autobiographique, en fait. Je pense que c'est un peu romancé parce qu'elle est folle, l'histoire. En fait, dès le début du livre, il est subjugué par une jeune bourgeoise, Ruth, qui vient de vraiment de l'aristocratie. Et du coup, il va se cultiver, s'émanciper tout seul, quoi, pour lui plaire. Et ça bouleverse totalement son monde. Le monde qu'il connaît, où c'est des travailleurs qui triment toute leur vie. Et où en fait, là, il découvre une société privilégiée dans laquelle t'as pas forcément besoin de travailler pour vivre, quoi. Bah, ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est que son carburant, c'est l'amour, et qu'il peut déplacer des montagnes pour plaire à quelqu'un.
Ouais.
Et là, je me reconnais vachement là-dedans, tu vois. Bien plus que pour briller en société ou quoi que ce soit, c'est une personne, un destinataire, qui fait que ça va être son moteur, quoi. Et il se met, pour le coup, il y prend goût et il veut devenir écrivain. Bon, c'est assez tragique parce que il cherche un éditeur, et puis c'est, je crois, le début du 20e, et c'est très compliqué. Et quoique, à l'époque, tu pouvais vivre très bien en étant signé dans des gazettes, des revues, où tu...
Tu n'existes plus aujourd'hui.
Bah, plus trop, hein. C'est plus autant valorisé d'être un poète ou d'être un... Oui, parce qu'il passe beaucoup de temps dans le livre à écrire des poèmes, en fait. Et dans un but pécunier, enfin, tu vois, ce qui est rare aujourd'hui. Et il y a une forme de désillusion dans ce bouquin, où à la fin, ça aussi, ça m'a plu. J'ai une facilité à mettre des gens sur un piédestal.
Ok.
Et en fait, quand tu te frottes un peu à n'importe qui, tu très vite, tu déchantes un peu, ou tu t'en lasses, ou tu fais le tour. Et là, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, il se dit, mais elle n'est pas du tout authentique, cette fille. Elle n'a jamais vraiment pensé par elle-même. Et je vais te lire une phrase que j'ai trouvée fabuleuse, parce que je notais toutes les phrases qui me parlaient dans ce bouquin. C'est lors de la rencontre, à un moment, il dit « En l'entendant rire, il avait senti de délicieux frissons lui parcourir le dos comme un ruissellement de clochettes d'argent. Et, l'espace d'un instant, il s'imagina dans un pays lointain, fumant une cigarette sous un cerisier en fleurs, tandis que les clochettes d'une pagode appelaient à la prière des fidèles en sandales de paille. » Bon, c'est une traduction, mais je trouve ça magnifique, comme un ruissellement de clochettes d'argent. Enfin, c'est trop beau, quoi, on frissonne avec lui, quoi. C'est une phrase que j'avais notée dans mes petites notes. Est-ce que tu fais ça, toi?
Ça m'arrive.
Est-ce que t'as un dossier avec plein de citations? Ça m'arrive.
Je vois essayer de retourner l'interview, mais... Je sais pas si je fais encore ça tellement. Ça, à un moment, je le faisais beaucoup, de noter les petites phrases dans les romans et dans les textes, mais là, je le fais plus trop. À part pour ce podcast où je note des petites phrases sur des cartes pour faire réagir les gens. Mais sinon...
Enfin, le risque, c'est de devenir trop une quote girl. Et il y a un côté un peu.
T'as peur de ça
quoi. Oh, j'ai tendance à faire ça, ouais. Mmh.
C'est-à-dire que quand t'écris toi-même, t'as peur de reprendre des choses qui existent déjà, c'est ça?
Bah, un côté un peu Lucini, quoi. C'est bien aussi de sortir le fond de sa pensée qui vient de soi, sans emprunter aux autres.
Un texte qui provoque la réflexion.
Bah, il y a un monsieur qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Cyril Dion.
Ok.
Est-ce que tu connais?
De nom, mais pas plus que ça.
Il est réalisateur, activiste, écrivain, cinéaste. Il a fait le film Demain, avec Mélanie Laurent.
Ah oui.
C'est ouais, vraiment multicasquette, comme on en voit de moins en moins. C'est un peu un homme des lumières, tu sais, qu'on a de moins en moins, qui fait tout. Ça, déjà, c'est hyper inspirant. Et il a été invité à la Grande Librairie récemment. Et tu sais, à la fin, t'as des petites mini de carte blanche.
Ouais, ouais. Bah, c'est à Augustin Trapenard que j'ai piqué ma carte blanche hein, de la fin, de toute façon.
C'est Augustin Trapenard, c'est sur...
Bah, c'est parce que c'est lui qui... C'est... Après, je sais pas s'il est passé récemment à la Grande Librairie, mais maintenant, c'est lui qui présente la Grande Librairie.
Ah, ok.
Et
François Bignol.
Bah, il a été remplacé là par Augustin Trapenard qui faisait Boomerang, où il y a une, petite carte blanche à la fin. Enfin, il y avait. Et je trouvais que c'était pas mal, quoi, comme idée. Voilà, bref, je te laisse reprendre.
Non, c'est une super idée, je trouve, parce qu'ils font des textes sur mesure, les invités. Ouais. Et souvent, c'est un peu, tu sais, ils ont une minute pour convaincre peu ou pour émouvoir. Et souvent, c'est des textes assez engagés. Mmh. Et donc, Cyril Dion, son sujet principal, c'est l'écologie. Et donc, il est poète aussi. Mmh. Ça vaut le coup que je te lise.
Okay.
Bah, il y en a deux. Je sais pas si on a le temps.
On a tout le temps du monde, si toi t'as le temps.
Il y en a un qui est très beau, qui fait « On pourrait dire que la poésie ne peut rien, ne sert à rien, que c'est juste un bel ornement. Car que peuvent les vers de Rimbaud face au char de Poutine? Que valent les trésors délicats d'Emily Dickinson quand le climat se dérègle, que les forêts brûlent, que l'eau vient à manquer? Rien. Et tout à la fois. »
Ouais.
Car c'est de piétiner la poésie que ce monde est malade. D'ériger des tours, de construire des parkings, d'aligner des hangars, de mobiliser nos yeux, nos sens sur des myriades d'écrans. De caresser à longueur de journée de petites plaques de verre rétro-éclairées plutôt que des pots, des écorces, des ruisseaux. Ça c'est beau. Ce que nous perdons aujourd'hui sous les coups de butoir de la croissance et de la compétitivité, c'est la poésie du monde. Les dauphins du fleuve Yangtze, les phoques moines des Caraïbes, les pumas de l'Est américain, les brises fraîches des nuits d'été. Alors peut-être que ce que le monde nous disait à bas bruit et qu'il commence désormais à rugir, c'est que notre salut tient à la poésie, à un basculement de priorité. Que nous ne sommes pas venus en ce monde pour produire et consommer et construire pierre à pierre le cauchemar climatisé que Kerouac et Miller vomissaient. Que nous sommes ici pour les étreintes, les baisers, pour les horizons rougeoyants et le babillage des merles, pour nous tenir debout, libres et dignes, pour planter, veiller, perpétuer. Vous vous dites peut-être que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. Alors j'espère qu'un jour vous viendrez rêver avec nous et le monde ne fera plus qu'un.
C'est John Lennon, ça, non ?
You may be thinking, putain, j'avais même pas fait le lien, Arthur, bravo. Ouais, c'est grave, John Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Et alors, quelle réflexion est-ce que ce texte amène en toi? Ben c'est où placer la poésie aujourd'hui? Comment on la hiérarchise dans ce monde où on déconstruit un peu tout aujourd'hui? Et on se demande si notre fonctionnement a du sens, si le capitalisme ça rend heureux. Et ça fait partie des textes un peu naïfs, mais qui moi me foutent le frisson quand je vois passer ça sur Instagram, hélas, en 30 secondes, tu vois, mais où j'espère que son message a raisonné, tu vois. Il sait lui-même qu'il peut faire qu'un format court, tu vois, pour réveiller les consciences, et c'est en ça qu'il est fort, je trouve, c'est qu'il arrive à faire des films hyper positif. Enfin, le format qu'il choisit, il a fait aussi des bouquins, mais il essaie toujours de vulgariser le discours et de faire en sorte que ça sonne positivement. Tu vois, là, il se rattache à la poésie parce qu'il adore ça. Il arrive à glisser des messages écolo dedans. Et donc, il y a un deuxième texte. Ça parle de la traduction aux écrans. Donc, ça fait. Il y a quelques années, je me suis amusée à faire un calcul. Une personne utilisant 8 heures par jour son écran pour travailler et ses loisirs passera environ 27 ans derrière une fine pellicule de verre rétroéclairée. À raison de 8 heures par nuit, elle passera 27 ans à dormir, soit 54 ans dans son lit ou derrière son écran. Ce qui lui laisse à peine 30 ans pour tout le reste, faire ses courses, laver son linge, passer l'aspirateur, préparer à manger, prendre les transports, payer ses factures, faire réparer sa voiture. Et combien de temps pour rêver, marcher dans la nature, lire de la poésie, sentir le vent, faire l'amour, créer, vivre des relations extraordinaires. Une part grandissante de notre attention, de notre énergie n'est-elle pas ainsi détournée des enjeux politiques, éducatifs, écologiques pour se réconforter dans le giron coloré et divertissant des écrans ? Ne devrions-nous pas y songer ? Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Bah après, moi, comme j'aime bien parfois apporter un peu la contradiction, je me dis... Bah, tu vois, créer, vivre des relations extraordinaires, est-ce que aujourd'hui tu peux pas faire ça? Enfin, ça dépend ce que tu fais avec ton écran, tu vois, parce que tu peux créer avec un écran, et puis je pense qu'on... Enfin, ce que tu fais quand tu mixes tes chansons,
lecteur,
hein. tu peux développer des relations extraordinaires en envoyant des messages à tes potes qui sont hyper loin, tu peux... Enfin... Je suis d'accord qu'on a sans doute une addiction aux écrans, etc., et que c'est mal, et qu'en plus c'est contrôlé par les grandes entreprises qui nous manipulent et qui veulent nos données pour faire du profit. Mais il y a peut-être aussi un usage des écrans qui peut être pas forcément entièrement négatif, quoi, je me dis. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Maintenant, c'est un outil incroyable pour accomplir plein de choses. Et, comme je te disais, je pense que c'est un peu une sonnette d'alarme parce que c'est limité dans le temps et que ça doit impacter. Et qu'en fait, lui-même, il est sujet à ses contraintes de susciter l'émotion en peu de temps.
Ouais.
Enfin, ce discours-là, moi, je l'ai vu sur Instagram, tu vois aussi, probablement, ou sur YouTube.
Oui, voilà, c'est ça aussi, finalement, et Instagram. Il peut y avoir aussi de la poésie sur Instagram. Il peut y avoir de la politisation sur Instagram. On peut remettre plein de choses en question derrière un écran. Ouais.
Complètement. Après, moi, ce que je déplore par rapport à les... Enfin, quand je compare à ce que j'ai connu ado, où je regardais la télé avec mes parents, c'est le format où, en fait, avant, t'avais plus de temps pour développer des idées, tout ça. Et là où aujourd'hui, enfin, moi-même, j'ai pas envie de perdre de temps.
Ouais.
Et je crois que c'est parfait pour ça, Instagram, c'est taillé pour, parce que tu sais que... Bah d'ailleurs, tu peux pas poster de films ou d'émissions ou quoi que ce soit.
Ouais.
Moi-même, dès que je veux poster un truc, en fait, ça me prend plus de temps de trouver comment tailler le contenu que je veux mettre pour que ça colle à Instagram, ce qu'il veut, quoi, que de faire le contenu, quoi.
Mmh.
Et en fait, oui, je te rejoins, c'est incroyable, enfin, comme passerelle pour se connecter les uns aux autres, mais juste on y passe trop de temps, quoi.
Mmh.
Genre, ça en fout. Enfin, moi, j'en suis vraiment victime. Hein.
Mmh.
Je me mets, tu sais, des petites limites de temps que tu peux faire. Bah, sur Instagram, quoi, qui te dit t'as passé tant de temps dessus, et en même temps, je me dis putain, mais je suis obligée en fait pour montrer ce que je fais.
Ouais.
Et c'est un vrai dilemme, ouais.
Mais en fait, c'est ça aussi une partie du problème, c'est que c'est pas juste regarder un écran rétroéclairé pour se divertir, c'est que c'est toute une partie aussi de notre vie sociale, de notre vie professionnelle qui est en fait derrière les écrans, et t'es un peu obligé aussi de faire ça, quoi. Enfin, d'être là, d'utiliser
complètement,
ça.
Ouais, même pour les événements qui comptent, tu sais que tu vas avoir les infos là-dessus, donc ça t'accapare, et après, tu sais qu'on est... trop vite esclave de tout ce qui vers quoi ça t'embarque 2 heures après, où tu t'avais juste voulu vérifier l'horaire d'un concert ou d'un truc.
Mais après, moi, je me dis, ce genre de discours, on dit attention les écrans, aujourd'hui notre génération elle est hyper dépendante des écrans alors que c'était pas le cas de la génération précédente, je me méfie aussi un peu, parce que justement ce podcast là sur Francis Cabrel, c'était plusieurs chansons de Francis Cabrel, et il a fait notamment une chanson. Est-ce que c'est sur son premier album, en tout cas un des premiers albums, qui s'appelle Carte Postale ? Je sais pas si tu vois ce que c'est comme chanson, ça. Carte Postale.
Carte Postale de J. Darmanin, mais pas de Cabrel. Non.
Bah, c'est un peu... Enfin, Justement, c'est une carte postale un peu grinçante où il parle de, justement d'un petit village, vu que voilà, c'est quelqu'un d'assez rural à la base, Francis Cabrel. Et il parle d'un village où justement il n'y a plus les enfants qui courent et les gens qui discutent sur les terrasses parce que tout le monde est devant la télé, quoi, en gros.
Allumez les postes de télévision, verrouillez les portes des conversations. Oubliez les dames et les jeux de cartes. Endormis les fermes quand les jeunes partent.
Allumez les postes de télévision, verrouillez les portes des conversations. Ce repli sur soi semble vous avoir toujours effrayé, Francis.
Ouais, mais ça a toujours été mon obsession, ça, parce que c'est vrai que ce village-là, je l'ai traversé et je voyais le film d'une maison à l'autre en avançant, parce qu'il y avait qu'une chaîne à l'époque. Et donc, je voyais le début du film chez l'un, j'avançais de 10 mètres, il y avait l'autre, et le film continuait, ainsi de suite, je remontais la rue. C'était le début, parce que j'avais aussi connu la période d'avant où chacun était devant sa porte avec sa chaise, les gosses autour, ça braillait, ça courait. Bon, je suis assez vieux pour avoir connu tout ça, donc le changement, c'est vrai, m'avait choqué.
Et donc, en fait, déjà, en 1978 ou 1980, t'avais un peu ce discours de dire « Attention, les écrans, ils bouffent notre vie. » Et sans doute qu'en partie, c'est vrai et que, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai toujours un peu... Enfin, c'est un peu, j'ai l'impression aussi, des discours qui reviennent à intervalles réguliers. Et au final, bon, je trouve ça intéressant de se dire, en tout cas, que c'est un discours qui date aussi, même d'avant Internet, quoi.
Quand tu compares les générations, quand même, c'est pas la même façon de se divertir, en tout cas, enfant. Les adultes aussi, je pense qu'ils rentraient chez eux, ils couraient pas devant leur téléphone, tu vois. Il y avait un...
Ils couraient devant leur télé.
Peut-être plus d'échanges. Ils couraient devant leur télé. Et donc, c'est ça la vraie différence, c'est que...
Après, peut-être la télé, c'est plus
télé,
sociable que
c'est
le téléphone.
C'est beaucoup plus.
Ouais.
Je pense qu'il y a cette prise de tête de qu'est-ce qu'on va regarder ce soir et du choix de la chaîne. Mais en fait, il y a un truc collectif de bah, on va faire des compromis, on va choisir cette émission ensemble. Mais moi, j'ai des très beaux souvenirs de moments... On regardait quand même pas mal la télé. Hein, de moments en famille où on regarde un truc, le film du dimanche soir, et c'est trop tendre, ces souvenirs-là. Et en fait, je vois... Enfin, je te dis, cette comparaison qui me paraît flagrante, c'est mes petits cousins versus mon frère et moi quand on jouait à leur âge. Je sais pas, ils ont 10 ans de moins que nous. Quand on essayait avec mon frère de jouer un peu les moniteurs, tu vois, de colo et de les animer. Enfin, nous-mêmes, on s'amusait avec mon frère à essayer de retrouver notre enfance à travers eux, aux fêtes de famille, pour jouer, pour trouver. Et en fait, on réalisait qu'on était beaucoup moins intéressants que leurs écrans, quoi, qu'ils avaient dans la poche, en fait, à disposition pour jouer à des jeux en ligne et tout, et ça, je trouve ça triste, parce que ça t'éloigne un peu de l'autre, quand même. Et
ouais. Après, je me dis, est-ce que la tendresse trouve pas de toute façon un chemin, et ça se trouve, eux, ils vont jouer en ligne avec leurs potes, et dans 15-20 ans, ils vont se dire, ah tiens, ils vont avoir un souvenir tendre, peut-être, de ces moments-là aussi, comme toi, t'as des souvenirs tendres de la télé, alors que Francis Cabrel, à un moment, il s'est dit, la télé, c'est vraiment la fin de la communication en famille et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours plusieurs façons de s'approprier... Enfin, tu vois, la technologie, elle est là, elle a peut-être un mode d'emploi particulier qui oriente quand même les pratiques, mais au final, tu peux quand même te l'approprier de plusieurs façons, quoi. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
Ça, c'est le texte que j'aurais pu choisir pour répondre à n'importe quelle de tes questions.
Ok.
Vraiment, j'ai voulu le caser partout. C'est « Imaginez l'amour » de Juliette Armanet.
Ah, je la connais pas, celle-là.
Arrête. Oh là là. Et du coup, c'est assez récent, quoi. C'est son album de l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est une chanson qu'elle a rajoutée au dernier moment, juste avant la finalisation du disque. Elle a insisté, elle raconte ça dans les interviews qu'elle l'a enregistré en pleine nuit, quoi. Et c'était juste un piano-voix, tu vois. Elle s'est dit, si, celle-ci, il faut la mettre. Et Dieu merci. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, vraiment, t'écoutes une chanson et tu te prends une grosse claque et t'as besoin de l'écouter en boucle, quoi. Et elle me plaît toujours autant.
Okay.
Je suis pas arrivée au stade de saturation. Oui, bien sûr, j'aurais adoré écrire une chanson aussi belle. J'ai bien sûr envie de... Je pense que tu dois la passer dans une
émission. Voilà, bon, on va la passer un peu. Tu veux qu'on l'écoute pour que je vois un peu, comme tu la connais pas?
Ouais.
Je sais pas si...
Et bah, il y a cette phrase... Bon, il y a plein de phrases sublimes. Mais il y a cette idée qui revient, c'est imaginer la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Ok.
Et ça, je trouve ça très très beau. Alors, Juliette Armanet, imaginez l'amour.
Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix.
Je te fais le time's up.
Ah. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour.
Les étoiles en plein jour.
Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici. Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez encore, imaginez plus fort, jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici.
Il y a un côté très Paul Naref.
Ouais, ouais.
Très kitsch en fait, et ça lui va bien, je trouve. Attention,
ouais.
Couplet un peu moins de 18 ans bientôt. Mais incroyable.
Okay.
Elle parle d'un chuchotement. Comme d'un bruit de bracelet. Et je trouve que ça, ça glisse.
Okay.
J'aurais pas osé caler ça moi comme phrase, mais je sais.
Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrai ton corps. Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort. Imaginez l'amour
seul, bien des tours, mais j'en demande encore. Je l'aimais. Cette vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Mais bien sûr, j'imagine que jamais tu t'imagines que je sois dans le décor.
Heureusement, j'ai ma tête qui m'emmène à la fête, parfois jusqu'à l'aurore. Imaginez l'amour.
C'est tout ce qu'il me reste pour aspirer encore.
Je l'aimais, cette vie que je n'aurai jamais, en tout cas.
Voilà. Je me souviens plus du dernier. Ce qui est fou, c'est que j'étais dans une période très, très calme.
Mm-hmm.
Et qu'une semaine après, je tombais dans un... Dans un amour impossible. Il y avait beaucoup de fantasmes, plus que de choses concrètes. Maman, ça c'est son fils. Maman. Et je trouve ça chouette en fait, ce bruit de vague où tu l'imagines en vacances avec son fils et elle s'imagine cet amour qu'elle n'aura jamais en fait. Ça ramène dans le réel.
Donc c'est un peu une chanson sur... l'ailleurs et l'inaccessible et imaginer un truc qui a priori n'aura pas lieu quoi. On peut enfin
on n'est jamais sûr hein. En tout cas elle se complaît dans le fantasme. Imaginer l'amour, ça me joue bien des tours, mais j'en demande encore, c'est une forme de drogue, c'est elle sait elle-même que le désir c'est souffrance quoi. Pour s'inspirer des bouddhistes. Et c'est trop contradictoire avec moi, ma vie,
ouais,
parce que
tout tu n'as pas trouvé l'ataraxie, quoi, a priori, quoi.
Clairement, ça fait souffrir, et en même temps, c'est un moteur incroyable. Enfin,
ouais,
le...
Donc un moteur d'écriture aussi. Enfin, ouais. Toi, t'écris un peu sur le fantasme,
ouais,
déjà, peut-être.
Sur un...
et sur les choses inaccessibles. Ou pas.
Ou pas.
Ouais.
Tout est possible, dans une certaine mesure. Okay. C'est un peu candide, mais... Mais j'y crois de plus en plus. Qu'en osant, tu peux atteindre des choses que t'aurais pensé inaccessibles. L'audace, c'est souvent récompensé. C'était quoi ta question?
C'était du coup... je trouve ça intéressant que t'aies pris ça comme texte que t'aurais voulu avoir écrit. Parce que du coup, est-ce que le désir est peut-être le pur désir un peu déconnecté même de la réalité d'une vraie histoire? c'est des choses qui te donnent envie d'écrire et sur lesquelles t'écris.
Imaginez, l'amour, c'est de l'amour déjà. Moi, je sais que je suis d'une nature assez romantique et du coup, le romantisme, c'est aussi tout exagérer, tout faire passer dans un prisme qui colore et qui intensifie ce qui est réellement. Cette image d'elle qui court dans la forêt. Attends, j'ai envie de relire ce passage. Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix. En fait, cette phrase-là, on a tous cette envie de partir sur un coup de tête avec la personne avec qui t'es. Mais on le fait pas toujours, tu vois. Ou alors c'est les 3 jours chez les beaux-parents parce qu'ils ont une maison secondaire à la mer. Mais en fait, imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix. On voit très bien ce truc un peu adolescent de légèreté et de... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais cette image, elle m'inspire un truc un peu... fictif. Je trouve ça très beau. Ouais, j'aurais adoré écrire ça, là, cette dernière phrase.
Je l'aimais cette vie que je n'aurais jamais en tout cas pas ici.
Mmh. Ouais, c'est s'imaginer qu'il y a d'autres mondes parallèles qui vont permettre peut-être de faire vivre ces amours qui semblaient impossibles.
Ouais, bah après, j'aime bien ce que tu dis, qu'une histoire d'amour rêvée, c'est peut-être déjà une histoire d'amour.
Ouais.
Et pour revenir à, un peu à toi, moi, c'est ce que j'aime bien, le twist un peu de « à t'en répète », où à la fin, t'as un peu ça, enfin, t'as du coup ce truc un peu de séduction, où tu vas dire à une personne, enfin, tu vois, on pourrait vivre une histoire, etc. Mais si jamais c'est pas OK, bah... Je garde ça dans ma tête et ce sera un secret et c'est peut-être déjà une belle histoire, quoi, d'avoir un crush.
Attends, j'arrête. Je voudrais pas gâcher la fête. Si je m'obstine à travers toi, si je vois des signes qui n'en sont pas, dis-le-moi, je te promets, ça va, je vais tout bien ranger. Tu seras mon secret. Et c'est sublime, là dans ma tête, je me fais des films d'auteurs français. J'allume le cœur, j'éteins le reste, j'étreins les heures auxquelles ça...
C'est déjà réel.
Carrément, après d'expérience, il faut avoir un petit retour quand même.
Ouais.
Faut que ça fasse un effet ping-pong, même une fois, même un revers, tu vois. Mmh. Pour sentir que c'est possible. Juste sentir que ça fourmille et que c'est pas totalement un film, ce que tu fais.
Ouais.
Parce que je pense que, quand même, le désir, c'est lié à soi. Enfin, moi, j'ai jamais aimé de façon totalement gratuite, en fait. On a toujours envie, un besoin vital d'avoir une reconnaissance et d'avoir du répondant, quand même. Et à partir de ça, à partir du moment où tu sens qu'il y a une forme de trouble ou de... Je crois que c'est possible de se faire des films et de les rendre plus beaux que ça ne l'est, vraiment, mais...
Et du coup, pendant qu'on écoutait la chanson, tu me disais... tu trouvais ça bien, cette phrase-là.
Les bracelets.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je vais t'emmener.
Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrais ton corps. Parfois, tu chuchoterais. Ça ferait comme des bracelets pour défier la mort.
Ouais, Juliette Armanet, elle fait beaucoup ça. Elle choisit des mots pour leur consonance, pour leur... comment ça percute, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu sais, dans son hit, là, Le Dernier Jour du Disco, elle parle de coquelicot.
Mm-hmm.
Et du fait que ce mot-là, elle aime trop comment ça rebondit, quoi. Bracelet. Je trouve ça trop bien qu'elle est là dans cette chanson où tout est assez simple dans ce qu'elle dit. Et d'un coup, elle dit « Parfois, tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort. » Moi-même, je me serais dit, bah non, bracelet, ça dégage parce que ça n'a rien à faire là. Pareil, elle dit, imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou. Elle s'en fout de dire folle.
Ouais.
Pas de genre, il y a tout ce qui se mélange et en fait, elle sait l'amour du mot et de la résonance qui prime.
Et toi, t'arrives à faire ça ou tu disais, t'as une petite résistance? Peut-être t'as utilisé des mots qui sont un peu incongrus à certains endroits?
Ouais, moi je trouve qu'il y a trop la démarche de faut que ça ait du sens.
Ouais.
Il faut que tu comprennes le texte si t'as pas la musique sous les yeux, que ce soit assez simple, assez... Là où les premières chansons que j'écrivais, c'était plus abstrait, plus un peu plus... qui se voulait plus poétique.
Ouais.
Et plus le temps passe, plus je me dis... Enfin, il y a une forme d'urgence de non, on n'a pas le temps, faut déclarer les choses telles qu'elles sont. Il y a une chanson que j'aime trop, écrite par Alex Baupin dans un film un peu étrange qui s'appelle les chansons d'amour, je crois.
Bah ouais, il est pas.
Oui.
Enfin, c'est une comédie musicale. Ouais.
C'est une comédie musicale. Mais j'avais un doute sur le titre. Enfin, ouais, les chansons d'amour, c'est
ouais,
tout.
Ça, pourquoi se compliquer la vie.
Voilà, les chansons d'amour. Dedans, t'as une chanson que je trouve trop chouette. C'est As-tu déjà aimé ?
As-tu déjà aimé pour la beauté du geste ? As-tu déjà croqué la pomme à pleine dents pour la saveur du fruit, sa douceur et son zeste ? T'es-tu perdu souvent ?
Oui, j'ai déjà aimé.
Incroyable, en fait, il lui pose une question, il y croit beaucoup, ils ont des voix un peu fragiles, et c'est poétique, et en même temps, c'est tellement, il l'interpelle directement.
Ouais.
C'est trop fort de faire ça, de réussir à parler à travers la chanson. Ça sublime tout.
Et justement, c'est un truc que j'ai remarqué, puisqu'on parle aussi de trucs que toi, tu as écrit et que tu voudrais écrire. Il y a beaucoup de tes chansons, en fait, qui sont des interpellations directes. Que ce soit d'une personne qui te plaît, d'une personne qui est partie. Enfin, c'est beaucoup un « tu », quoi. C'est beaucoup des interpellations.
Oh, beaucoup un « tu » et un « je », hein, quand même.
Un « je », mais qui est là par rapport à un « tu », souvent.
C'est vrai, ouais. J'ai envie d'ancrer mes trucs dans le réel et de voir une personne devant moi pour qu'on y croit, en fait. J'ai toujours ce souci de comment les gens ils vont recevoir ma musique, et si c'est trop après, j'ai peur qu'on s'ennuie vite. Mmh. Les artistes qui me touchent, les Michel Berger et compagnie, c'est très simple, quoi, l'écriture. C'est très direct.
Ouais.
J'aime bien cette forme-là.
Ça me fait penser, j'avais reçu Boris Bergman dans le podcast.
Okay.
Qui est aussi un... Et qui n'est pas tellement de l'école Michel Berger. Et... enfin, qui fait des trucs parfois un peu plus absurdes colorés.
Okay.
Et lui qui disait vraiment...
Je connais pas.
Bah, tu connais Alain Bachung.
Mais ça, c'est fou Gabi que ce soit pas lui, Alain Bachung, qui écrit. Enfin, c'est tellement une rêve. Enfin,
en fait, le truc avec Alain Bachung, c'est qu'au début, justement, il bossait avec Boris Bergman, et apparemment, à ce moment-là, c'est Boris Bergman qui écrivait vraiment tous les trucs. Et ensuite, au moment où Bachung, il s'est mis à bosser avec d'autres gens, au moment de La Nuit, je mens, enfin, et tout ça, là, apparemment, il a plus co-écrit les trucs. C'est ce que la version que
c'est
j'ai entendue.
C'est comment il l'interprète et tout. En fait, on déchante tous en apprenant que c'était pas lui. Tu dis, il reste quoi alors ?
Je sais pas. Enfin, ça, c'est encore une autre question à laquelle on pourra répondre après. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin, quand tu chantes un truc, d'être la personne qui l'écrit ? Et je sais que notre génération, il y a un truc peut-être de sincérité où on attend peut-être plus de l'artiste qu'il l'écrive ou qu'elle écrive elle-même ses chansons. Il y a moins de gens même qui écrivent pour les autres. Enfin, j'ai l'impression que ça un peu les chanteurs, les chanteuses d'aujourd'hui, elles vont aussi être autrices-compositrices. Et il y a un truc un peu de s'exprimer soi-même. Je sais pas si ça vient peut-être du rap où il y a un peu ce truc-là où l'art de l'écriture, c'est vraiment lié à l'art du flow et de l'interprétation, et que les deux sont vraiment hyper associés. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les années 70-80, il y avait aucun problème à chanter les chansons des autres. Et du coup, tu vois, Boris Bergman, c'est un parolier. Yeah. C'est son métier. Toute sa vie, il a écrit des chansons pour les autres, et il a quasi, enfin si, il a fait un album, un peu passé inaperçu. Mais sinon, c'est ces gros trucs. Il a écrit pour les autres, et il y a plein de gens à l'époque qui écrivaient entre guillemets juste pour les autres. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a un petit peu moins ça. J'ai l'impression, peut-être. Enfin, je sais pas. Toi qui es dans le show business, qu'est-ce que tu en penses ?
C'est vrai que à l'époque, c'était pas du tout un complexe de. D'être une Céline Dion, en fait. Quand t'es Céline Dion, je pense que t'as... t'as de quoi faire. Mais effectivement, aujourd'hui, rien que ce statut auteur, compositeur, interprète, on le voit partout, en fait. Et c'est pas rare de l'être. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être le fait d'être... d'avoir plein d'outils à disposition qui fait que on a un peu le devoir d'être débrouillard. T'as encore des gens qui écrivent pour d'autres. Hein,
ouais. Mais toi, par exemple, ça te ferait bizarre de chanter une chanson qui a été écrite par quelqu'un d'autre, par exemple. Ou toi, d'écrire des trucs.
Ce que je fais, c'est tellement intimiste. Et c'est, ça part toujours d'histoires que j'ai vécues. Mais je faut jamais dire jamais, mais je fais aussi beaucoup de presta, événementiel, tout ça, qui font que je fais des reprises par la force des choses pour en manger. Et où t'arrives toujours à faire résonner des paroles et tu peux tout transposer. Mm. Mais moi, défendre un projet comme ça avec des chansons qui sont pas les miennes, avec quelqu'un qui s'est adapté, je crois que je suis trop dans cette quête d'absolu, toujours que j'aurais du mal à le faire. C'est marrant, tu parlais du rap, je pense que ça joue beaucoup. Enfin, le rap, il y a quand même un discours de... Enfin, c'est très personnel.
Ouais, c'est ça. Et comme c'est un truc un peu de performance, mais que la performance, c'est autant le flow que l'écriture, et que du coup, les rappeurs, c'est aussi des gens qui... Ou les rappeuses, c'est des gens qui écrivent leurs propres textes, quoi. Mm. Et que du coup, tu vas aussi juger... la qualité du texte et pas seulement l'interprétation comme tu pouvais faire avec Johnny, quoi.
Ah ouais,
donc c'est... Enfin, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc qui s'est déplacé à ce moment-là. Enfin, je sais pas, faudrait demander à des gens qui ont réfléchi à la question.
Carrément, mais je crois qu'on est... Enfin, moi, la première, je suis trop sévère là-dessus sur ce truc de comment je juge les interprètes. Mmh. Alors que... Enfin, t'as des monuments où tu sais qu'ils pleurent pour de vrai, quoi, même si c'est pas lui qui l'a écrit.
Mmh. Et donc, pour rembobiner un tout petit peu, du coup, Boris Bergman, il disait... Pour faire des chansons, enfin le matériau de base, c'est genre le mot, et il part du mot et de la sonorité du mot, et limite, c'est à partir du mot qu'ensuite il va trouver un sens, tu vois, à partir des mots. Et du coup, toi, c'est un peu dans l'autre sens, t'as un truc à exprimer, et tu vas trouver les bons mots pour le faire, quoi.
Ah ouais, c'est totalement le sens inverse.
Un texte à offrir.
Enivrez-vous de Baudelaire. Okay. Le vrai déclic, ça a été de voir une vidéo de Serge Reggiani, qui, je sais pas si tu la connais.
Non, mais je pense qu'il doit très bien dire ce poème.
Bah oui, il le lit mieux que quiconque. En fait, il y croit tellement. Et tu connais ce poème ?
Bah oui.
Il faut être toujours ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui nous brise les épaules et nous penche vers la terre. Il faut s'enivrer sans trêve. De quoi tu vas me dire ? Ouais.
De quoi s'enivrons-nous ? Est-ce qu'on va s'enivrer de vin ? Cassandre ?
Bon, Baudelaire parle de vin. Parfait. Ça, je valide.
Ouais.
Ça, c'est validé. D'amour. Est-ce c'est plus que validé.
D'amour, on est validé, ouais.
Ah, plus que validé. Clairement, ça fait tourner la tête. De poésie. De vertu. Quand même,
ça, c'est la question. Ivre de vertu. Est-ce qu'on se rendit un peu de vertu ou...
Pas sûr que ça enivre.
Ouais.
Je pense que ça calme. Mmh. Non, je pense que derrière l'ivresse, il y a...
Ouais, bah en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, ce qui est important, c'est l'ivresse et... Enfin voilà, c'est comme disait l'autre, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. Ouais.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise.
Ouais, moi quand j'envoyais ce poème au vœu d'anniversaire, enfin c'était aussi pour se rappeler qu'on est là pour s'amuser, quoi. Il y a tellement de choses lourdes partout sur terre dans nos têtes. Ouais, je fais un peu l'apologie de comment trouver du plaisir, comment s'amuser.
Trop bien, ce poème.
C'est quoi ton poème fétiche, toi ?
Oh là là. Question. Mon poème fétiche, en ce moment, du moins, j'ai découvert ça, enfin redécouvert ça, je pense, il y a pas longtemps, c'est La Complainte de Robert le Diable de Louis Aragon, qui en fait a été adapté en chanson par Jean Ferrat.
Jean Ferrat, ok.
Ouais, Jean Ferrat. Et il y a aussi une version qui est aussi très belle, mais bon, qui est un peu la même que Jean Ferrat, mais par Christine Sèvres, qui était à un moment la meuf de Jean Ferrat, mais beaucoup moins connue.
Ça fait quoi ?
Je me souviens plus exactement de comment ça fait, mais c'est un texte en fait qui est dédié à Robert Desnos, et que Aragon il a écrit, je crois, en 45. Donc Robert Desnos, il est mort. Pendant la guerre.
Précision au montage, après avoir consulté Wikipédia, donc Desnos, dans les années 30, se préoccupe de la montée du fascisme en Europe et rejoint dès 1934 le mouvement frontiste, donc issu du mouvement Front commun contre le fascisme. Il adhère à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, puis, après les élections de mai 36, au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes. En 40, la France défaite par l'Allemagne nazie, il est compté parmi les artistes dégénérés, honni de Vichy et survit avec Yuki, sa compagne, grâce à des complaisances au sein du quotidien collaborationniste Aujourd'hui, qui publie ses dessins sous pseudonyme. De juillet 42 jusqu'à son arrestation le 22 février 44, il participe au réseau de résistance Agir. Depuis Compiègne, il est déporté le 27 avril 1944 vers Fleua, via Auschwitz, Buchenwald et Flossenbürg. Épuisé par deux semaines d'une marche de la mort qui l'a amené fin avril 1945 à Theresienstadt, il y meurt un mois après l'abandon du camp par les nazis. Son corps est rapatrié en octobre et enterré au cimetière du Montparnasse.
C'est vraiment un texte d'hommage à un autre poète qui était son ami et qui est mort. Et en fait, je trouve que c'est tellement beau la façon qu'il a de parler de lui et d'évoquer les sensations et d'évoquer lui, son propre rapport poétique au monde. Je trouve que c'est juste le meilleur hommage que tu puisses faire, genre à un poète et à un être humain, et je trouve ça juste tellement beau.
Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval.
Ouais, juste, pas bonjour. Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval. Quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. Tu vois, c'est...
Ouais, c'est incisif, quoi.
Quand dans la cruauté de tes vers réguliers, le rire des bouchers t'escortait dans les halles, tu avais en ces jours ces accents de gageure que j'entends retentir à travers les années. Poète de 20 ans d'avance assassiné et que vengeait déjà le blasphème et l'injure, je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle
Un texte dans lequel tu aimerais vivre.
Il y a cette chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent.
Oui.
Si le monde avait autant de tendresse pour les gens qui doutent que dans cette chanson, je pense que je me sentirais beaucoup plus à ma place parce que dans cette chanson.
Tu es toi-même une personne qui doute.
Ouais. Ouais. Même quand je parle, je remets toujours en question ce que je suis en train de dire et je me dis, oh là, non, c'est pas vers là que je veux aller. Même quand je pense, hein. Il n'y a pas que l'oral. Et globalement, elle est trop mignonne, cette chanson, quoi. C'est vraiment... Elle est originale, en fait, de faire l'apologie des gens. Et il y a une phrase qui fait « J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. » Et cette phrase, oh là là, je les vois tellement et je me vois tellement là-dedans. Et en fait, t'as aussi ceux qui portent leurs hivers au printemps. Et qu'on les laisse un peu tranquilles, ceux-là. Je sais plus comment elle le dit, mais...
J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Mais je trouvais ça triste de répondre à ta question par cette chanson. Du coup, j'ai pensé aussi à une chanson d'un Québécois que j'adore, qui s'appelle Philémon Simon, qui s'appelle Moi j'ai confiance.
Moi j'ai confiance qu'on peut aimer malgré l'orage, malgré la fin du monde qui s'en est, noyer les cœurs malades. Moi j'ai confiance qu'on peut marcher jusqu'à la prochaine.
En fait, tout en la chantant, t'as l'impression qu'il se donne confiance à lui-même et que. Elle est très, très joyeuse, cette chanson. J'adore. J'ai aussi pensé à une chanson d'Alain Souchon qui s'appelle La vie ne vaut rien. C'est un peu un état des lieux du monde et de la quête de sens et tout. Et où en fait tout s'aligne quand qu'il est contre les seins de celle qu'il aime. Mais moi, quand je tiens là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là j'ai dit rien, rien ne vaut la vie. Et ça, ouais, j'aimerais bien vivre là-dedans. Il y a cette chanson, il y en avait. Ouais, bof, j'ai pensé à plein de trucs pour répondre à ça.
Plutôt des chansons. T'aimerais bien vivre dans des chansons qui
ouais.
sont un peu des. Enfin, qui sont un peu aussi des façons d'appréhender la vie d'une façon un peu tendre et douce et quelque part accepter un peu la vulnérabilité. T'as beaucoup ça dans les chansons d'Alain Souchon. Et je connais un peu moins Philémon Simon, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi.
Ouais,
et bon, voilà, c'est tout le. Voilà, les gens qui doutent, c'est que ça, quoi.
Ouais, comment tu deals avec cette fragilité
ouais.
qu'on a tous, plus ou moins, on a tous un curseur différent, je pense. Mais si t'arrives à en faire un truc, c'est cool. Mais elle est trop dure, cette question. Je peux pas choisir un texte.
Tu sautes de texte en texte. Ben, en fait, justement, moi, je pense que j'aurais choisi une chanson aussi. Enfin, en fait, avant de lancer le podcast, je me suis posé les questions à moi-même pour voir si ça marchait. Et à l'époque, je sais pas si ce sera encore le choix que je ferai aujourd'hui, mais j'avais choisi Sarah de Bob Dylan. Tu connais, tu vois ?
Mais bien sûr, je voilà. vois. Mais ça, c'est très léger, en fait. Enfin,
c'est un peu léger, et je trouve juste c'est tellement bien écrit, et ça transporte tellement des sensations que... ouais, je trouve ça.
Mais ça parle pas à tout le monde, hein. Parce qu'il a quand même un phrasé particulier et hyper nasillard.
Ouais, mais celle-là, je la trouve juste tellement poétique et ouais, tellement une histoire d'amour qui passe aussi tellement par la sensualité, par on voyage un peu et un jour on est à New York et le lendemain on est un peu dans ce bord de mer. Voilà, avec les enfants qui jouent au loin et les bruits de machin. Et il y a un peu cette histoire, mais aussi dans des paysages. Enfin, je trouve. Que tout est trop beau, quoi. Et j'aimerais bien vivre un peu là-dedans, quoi.
Putain, mais tu me donnes envie de la réécouter. Après, je... Putain, mais je l'écoutais, je crois, au lycée.
Tu vois, juste... Avant même qu'il parle de la meuf, il parle de la plage et les enfants qui jouent et tout ça.
Ah, c'est très contextualisé, ouais.
Ouais.
It's all so clear, I could never forget. Sarah, oh Sarah, loving you is the one thing I'll never regret.
C'est déjà l'heure de la carte blanche.
Oh, quel dommage, c'est la fin.
Le temps passe si vite quand on s'amuse.
C'est vrai. Bah là, pareil, j'aurais eu trop de possibilités. J'ai choisi... deux textes.
Okay.
Un de Jack Kerouac. En fait, j'ai pas lu le livre le plus connu, là, comme il
dit. Sur la route.
On the road, ouais. Mm. Sur la route. J'ai lu un extrait via un livre qui parle de Janis Joplin. Mm. Et c'est dans le préambule où il décrit la personnalité de Janis Joplin en citant Kerouac. C'est une traduction, hein, mais je trouve ça très bien traduit. Donc ça dit « Les seuls êtres intéressants sont pour moi... les démons, ceux qui sont assez barjots pour vivre illuminés quand ils parlent, désireux de tout en même temps, et qui jamais ne baillent ou ne débitent de lieux communs, mais qui brûlent comme les fabuleuses chandelles jaunes romaines. » J'ai dû rater je sais pas combien de mots là-dedans, je l'avais noté, attends, cette citation. Voilà ça. Parce que les seuls êtres intéressants sont pour moi les démons, ceux qui sont assez barjots pour vivre illuminés quand ils parlent, déjantés pour ne pas sombrer. Désireux de tout en même temps, ceux qui jamais ne baillent ou ne débitent un lieu commun, mais qui brûlent comme les fabuleuses chandelles jaunes romaines et éclatent à travers les étoiles en des explosions tentaculaires de feux d'artifice. Et au beau milieu, vous voyez le bleu de l'apothéose et tout le monde fait « Waouh !»
Tout le monde fait « Ah !»
Ah ouais, ça, on voit cette scène hein, où c'est unanime.
Et il y a quelqu'un qui rentre et tout le monde fait « Ah !»
Ah oui, ça arrive souvent, ça, la nuit. Non, mais je trouve ça beau et c'est cette intensité chez Janis Joplin que j'adore. Mmh. Et ouais, ça me donne envie de lire ce livre, mais
et
pas le temps encore.
Toi, par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire monter sur scène et incarner des textes, et ce que faisait aussi Janis Joplin, tu trouves qu'il faut avoir cette incandescence ? Il faut être un peu comme une chandelle romaine et exploser comme un feu d'artifice.
Je sais pas s'il faut, moi je peux pas faire autrement. Et j'ai toujours porté ça comme un fardeau, notamment quand je faisais des études qui avaient rien à voir. Mais quand t'arrives à en faire quelque chose, tu te dis bah du coup tu trouves du sens. Et je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas de sens, mais moi j'essaye toujours de raccorder pour tenir bon. Et du coup j'essaye de me dire ah bah si j'ai ça et si ça m'a... Ça me brûle à ce point, c'est que c'est aussi une chance, c'est qu'il y a des trucs à raconter et tout, et que c'est une source d'énergie aussi, vachement, l'angoisse, tout ça, parce qu'on parle de flamme et tout, mais clairement, c'est de l'angoisse, un truc très dark que ouais, je ressens ouais. Quand j'écoute Janis Joplin.
Ouais, bien sûr.
Mais du coup, il y a un truc un peu plus positif, qui est un poème de Verlaine que j'adore, un de mes préférés, je sais pas si tu connais Green. C'est un poème que je connaissais par cœur il y a des années. Mmh. Mais je suis pas sûre de pouvoir te le restituer. Je vais essayer.
Tu veux le chercher, sinon ? Ou tu veux le...
Attends, je vais tester le début. Vas-y. C'est « Voici des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. » Je me souviens plus de ça.
C'est pas mal, déjà. Franchement, tu dis ça... À quelqu'un, c'est pas mal.
J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front, souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée, rêve des chers instants qui la délasseront. Attention, plus belle phrase du poème. Sur votre jeune sein, laissez ma tête reposer, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu puisque vous reposez. Verlaine, mort en 1896. On le regrette ou pas ? Oui. Il a vécu longtemps, hein ?
Ouais.
tu sais pas ?
Ben, on regrette sa poésie. Après, je crois qu'en tant que... Enfin, c'est un peu les paradoxes des gens qui sont parfois plus sombres que leur poésie. Ouais, c'est ça.
T'as pas envie que ce soit ton pote, toi, Verlaine ?
Ben, je sais pas, parce que... il a quand même tiré sur Rimbaud. Donc, t'as vu ?
Tiré dans quel sens ?
Ben, avec un gun.
Arrête. Mais il était pas fou d'amour pour lui ?
Ouais, mais voilà, toi-même, tu sais que la passion amoureuse, des fois, ça conduit à des
extrêmes. J'étais pas du tout con. C'est Verlaine qui a tué Rimbaud ?
Il l'a pas tué, mais il lui a tiré dessus.
Ah oui !
Et du coup, il a fait un peu de prison à cause de ça.
Mais
non, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi avec quelqu'un comme Verlaine, c'est que ses poèmes qui sont tellement lumineux et doux et tendres, et derrière, t'as un mec qui est quand même... Enfin, qui est violent et...
Trop jeune.
Voilà, comme quoi...
Tu as des... Verlaine et Rimbaud, t'as des poèmes de l'un d'eux qui te touchent ou que tu connais ?
Déjà, tout Rimbaud, ça c'est sûr. Voilà, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais j'aime trop de Verlaine aussi, écouter la chanson bien douce. Qui est aussi un truc qui est vraiment un hymne à juste la simplicité et la tendresse. Et tu vois, limite, même un truc... très entre guillemets conservateur, de juste tu te maries, t'es là et juste t'as une relation très stable et très douce pendant des années, c'est un petit refrain. Et je trouve que ça c'est incroyable de tendresse et ouais de enfin c'est hyper rassurant et je trouve ça trop beau comme texte.
Elle dit l'avoir reconnu, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or, et du tendre bonheur, d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épine.
Ça, j'aime trop juste après là.
Allez,
rien n'est meilleur à l'âme que de rendre une âme moins triste. Faire une âme moins triste.
Oh.
Et tu vois, c'est tellement simple et limite un peu débile, mais t'es là, je pense juste ça touche trop comme, ben oui.
Ah non, en fait, on va mieux quand on fait du bien à quelqu'un. qu'on aime vraiment.
Et justement, c'est ça que je trouve fort avec ce texte, c'est que c'est vraiment... Enfin, souvent on dit la littérature, c'est explorer la part sombre, je sais pas quoi. Et là, c'est vraiment que des sentiments, genre, hyper de bonté et tout. Et je trouve que c'est juste trop beau, quoi, être en mode, ouais. Voilà.
Bah, tu vois, je relisais des bribes d'un journal intime que je tiens vraiment épisodiquement. Je réalise que j'écris beaucoup plus quand ça va pas. Mais là, j'avais écrit un truc doux. Et c'était la relation la plus longue que j'ai eue pendant 4 ans avec cette fille, et où j'avais écrit que pour une fois j'avais ressenti un moment de symbiose où j'étais pas juste de c'est quoi mon plaisir à moi ou de comment je la cajole. C'était un moment où juste on s'était prise dans les bras, dans le lit, et qu'il y avait vraiment un recul de... Je me déconnecte de moi, ce que je ressens moi, et juste... Et de ce qu'elle ressent, et juste qu'est-ce qu'on fait toutes les deux, qu'est-ce qu'on forme à deux, et qui est trop. Il faut que t'écoutes ça.
Après ça, on a continué quelques temps à se faire écouter des chansons et à se raconter nos vies tout en enchaînant doucement sur l'apéro. Cassandre, je l'ai rencontrée il y a 10 ans déjà quand je suis arrivé à Paris, et j'ai tout de suite été fasciné, c'est vrai, par son incandescence. Elle se cherchait encore, mais elle chantait déjà au fil des jams, du rockabilly et puis quelques trucs à elle. On avait des goûts, des sensibilités en commun, on chantait en duo « J'ai un problème » dans des métros à travers la nuit. On a découvert à peu près en même temps la capitale, son ivresse, l'amour fou, ses déchirures, les soirs glorieux, les gueules de bois. Témoin de cette époque, cette chanson.
Enfermé dans une cage de métro, de longs couloirs, étourdi du vertige des fumées, des bars le soir, je te cherche. Une fois plongé dans la foule où dansent des marionnettes, ivre et déjà sourde, je scrute ta liesse. J'avais la rondelle de citron, le palmier de Cuba, le zeste le plus frais, des cocktails dans tes bras. Mais d'une traite, j'ai recraché toutes les saveurs tropiques et brutalement brisé le verre en éclats. J'ai aiguisé le couteau pour qu'il me perce. Je t'ai quitté, maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Sans toi, Paris brûlant, toussant d'une fièvre froide. Vers Saint-Sulpice est un supplice, l'église est pâle. Moi figée dans un livre, toi libre dans un film, tu les fais rire. Seule je t'imagine voguer vers d'autres filles, moins fragiles. Dans la tiédeur de mes sommeils, tu souffles des poèmes, flottant dans mes rêves. Et désormais c'est moi qui pleure, demain aussi ou tout à l'heure je perds la tête. J'ai aiguisé le couteau pour qu'il me perce. Je t'ai quitté, maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Sans toi Paris brûlant, toussant d'une fièvre. Vers Saint-Sulpice est un supplice, l'église est pâle. Et sur le quai tremble le souvenir de toi qui part. Paris s'enlit sans toi, reviens. Tous mes regrets, ça ne sert à rien. J'appelle trop tard. Le
perce. Je t'ai quitté et maintenant qu'est-ce qu'il me reste? Sans toi, Paris brûlant tout sang d'une fièvre froide. Vers un sulpice et un supplice, l'église est pâle.
Merci d'avoir écouté Intertexte. Vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a évoquées avec Cassandre en description. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où il sera question de théâtre, de gauche et d'un art qui, comme on sait, n'est pas difficile à maîtriser, l'art de perdre.
As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? As-tu déjà croqué la pomme à pleines dents?